RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et l'Indonésie. Lors du suivant, vous allez écouter magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter aussi des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. PT Pelni prépare un navire gratuit pour aider les victimes du séisme de Lombok. Le gouvernement indonésien a immédiatement réhabilité et reconstruit les zones touchées par le séisme à Lombok. Le ministère indonésien de la Culture et de l'Éducation prépare des documents sur la stratégie nationale de développement culturel. L'Indonésie et la Palestine signent les règles pour élimination des tarifs pour les dattes et les olives. L'Indonésie et l'Australie développent une coopération contre le terrorisme et enfin les spectacles culturels et culinaires indonésiens à Bruxelles. Voici le journal complet. PT Pelayaran Nasional Indonesia ou Pelni prépare spécifiquement sa flotte pour distribuer l'aide humanitaire à Lombok, Nusa Tenggara Ouest, à partir de Surabaya, Java Est. PT Pelni préparait des bateaux à moteur ou KM Egon qui peut transporter des passagers, des véhicules et des équipements lourds en une seule fois. Selon PT Pelni, il n'y a pas de frais pour l'envoi de l'assistance via KM Egon. Cela a été déclaré par le chef du Centre de données d'information et des relations publiques de l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, ou BNPB, Sutopo Purwonugroho, dans sa conférence de presse lundi à Jakarta.
Kemudian dari PT Pelni menyiapkan kapal motor.
PT Pelni prépare un bateau à moteur KM Egon comme un moyen de transport pour envoyer gratuitement une assistance de Surabaya à Lombok. KM Egon est un navire de type Roro et peut transporter des voitures, des équipements lourds et des passagers. Le chef du secrétariat de PT Pelni, Ridwan Mandaliko, par une déclaration écrite, a dit que KM Egon a commencé à accoster sur les quais du port de Tanjung Perak, Surabaya, mardi à 13h d'Indonésie occidentale, avant de partir pour le port de Lembar, Lombok, à 18h. Heure occidentale le même jour. PT Pelni a également envoyé une aide humanitaire sous forme de besoins de base et de médicaments pour les victimes du séisme de Lombok. Le gouvernement a décidé que l'état d'urgence se déroulait de 2 à 3 semaines pour évacuer et enregistrer les victimes du séisme. Cela a été déclaré par le vice-président Yusuf Kalla à Jakarta. 98 personnes ont été tuées et plus de 200 personnes blessées suite à un séisme de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter sur l'île de Lombok dans la province de Nusa Tenggara Ouest. Selon Yusuf Kalla, le gouvernement va réhabiliter les victimes du tremblement de terre et à reconstruire leurs maisons.
Kita semua mengucapkan bela sungkawa, simpati pada korban bencana.
Mudizong tu no kondoliang esang pati o victim lutra memang deter a Nusa Tenggara West, ang partikulir dang lenok de Lombok. Esperong kosong mespri sera aksepte par Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Le gouvernement a promis de réhabiliter immédiatement tout cela, mais l'état d'urgence pendant peut-être 2 ou 3 semaines, BNPB et TNI seront également impliqués. Le plus important après l'état d'urgence est la réhabilitation et la reconstruction. Le vice-président Youssouf Kalla a déclaré que le gouvernement maximisera les efforts dans l'état d'urgence pour qu'ils soient évacués, pour qu'on puisse faire la gestion rapidement pour réduire le nombre de victimes. Le gouvernement concentre actuellement ses efforts pour fournir l'aide nécessaire aux victimes du séisme, notamment de l'eau, de la nourriture, des boissons, des couvertures et des autres. Le ministère de la Culture et de l'Éducation de la République d'Indonésie a coopéré avec le ministère de la Coordination du Développement Humain et des Affaires Culturelles de la République d'Indonésie, le ministère des Affaires Intérieures de la République d'Indonésie, le ministère de la Planification du Développement National et l'Agence de la Planification du Développement National. L'Agence a organisé un atelier pour organiser les réflexions conceptuelles de la culture locale au niveau provincial, les premières 4 et 14 août 2018 à Jakarta. L'atelier fait partie de la stratégie et s'efforce de faire progresser la culture nationale. C'est également un élément fondamental pour que le schéma directeur du développement culturel national devienne la nouvelle référence du développement national à court, moyen ou à long terme. Le directeur général de la culture du ministère de la Culture et de l'Éducation de la République d'Indonésie a déclaré récemment à la Voix d'Indonésie à Jakarta que les documents stratégiques font partie intégrante de l'organisation du plan directeur. À travers les documents stratégiques, chaque région devrait présenter ses propres caractéristiques et mener bien à son développement en fonction de son potentiel.
Cetak biru itu maksudnya gini. Kalau cetak biru, artinya semua kegiatan-kegiatan kebudayaan itu sudah bisa kita prediksi.
Le plan directeur signifie que nous pouvons déjà prévoir toutes les activités culturelles. Si le modèle est appliqué à l'échelle nationale, il est vulnérable aux erreurs, car l'Indonésie est un pays diversifié. Parce que chaque région indonésienne a ses propres caractéristiques, par conséquent, nous n'avons pas besoin de plan directeur, mais les documents stratégiques. Les documents stratégiques nous aident à atteindre nos objectifs. Par exemple, les ressources humaines sont hautement nécessaires, mais leurs nécessités varient d'une région à l'autre en fonction de leurs priorités. En ce qui concerne le développement des ressources humaines dans les aspects culturels, Hilmar Farid a déclaré qu'à l'avenir, sa partie continuerait à s'efforcer d'accroître le nombre d'appareils civils d'État soutenus par le contexte de l'éducation culturelle. Selon lui, le nombre des appareils civils du ministère indonésien de la Culture et de l'Éducation desservant les affaires culturelles sont actuellement tout à fait convenables. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont pas de qualification en éducation culturelle. Par conséquent, ils ont besoin de formation et de conseils, notamment liés à la base juridique du développement culturel national. L'Indonésie et la Palestine signent les arrangements de mise en œuvre ou AI dans le protocole d'accord sur l'octroi des préférences pour l'élimination des tarifs à 0% pour les dattes et l'huile d'olive vierge en provenant de Palestine. La signature a été effectuée par le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tias Tolukita, et l'ambassadeur palestinien à Jakarta, Zuhair Al-Shun, à Jakarta, lundi. Enggar Tias Tolukita a souhaité, lors d'une conférence de presse, que la mise en œuvre de l'élimination des tarifs puisse être réalisée en septembre 2018. L'Indonésie enverra la note diplomatique à la Palestine comme un signe que la mise en œuvre était commencée. Selon le ministre, le protocole d'accord donne le mandat de la formation d'instruments pour la facilitation des exportations de la Palestine en éliminant les tarifs d'importation en Indonésie. C'est une forme de soutien du peuple indonésien à la lutte de la Palestine, en particulier pour améliorer l'économie du peuple palestinien. Le gouvernement indonésien et australien ont des relations assez étroites en matière de coopération contre les actes de terrorisme et le radicalisme. Même à la réunion Indonésie-Australie, conseil ministériel sur le droit et la sécurité à Lombok, l'ouest de Nusa Tenggara, récemment, les deux pays développent la coopération pour acquérir de nouvelles méthodes dans la lutte contre les actions. L'agence de presse de l'Indonésie, Antara, a rapporté le ministre de coordination des politiques, la loi et la sécurité, Wiranto, a déclaré après la réunion que l'Australie et l'Indonésie ont la même compréhension, à savoir lutter contre le terrorisme et le radicalisme ne pourrait pas seulement être réalisé par un seul pays, mais il devrait y avoir une coopération étroite et sincèrement avec d'autres pays, notamment en coupant les lignes de la logistique du terrorisme. Dans un communiqué de presse, le ministre Wiranto a expliqué « L'Australie et l'Indonésie ont toujours essayé d'inviter d'autres de lutter ensemble contre le problème du terrorisme et du radicalisme. » La réunion a produit un communiqué conjoint qui a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays en matière de la loi et de la sécurité. L'ambassade indonésienne à Bruxelles et le parc Pairi Daiza, soutenu par l'Agence de l'économie créative et le gouvernement provincial de Java occidental, ont tenu la fête indonésienne. Cet événement est un événement artistique, culturel et culinaire indonésien qui s'est tenu du 3 au 5 août au parc Pairi Daiza en Belgique. Le coordinateur des informations sociales et culturelles de l'ambassade indonésie à Bruxelles, Ignatius Priambodo, a déclaré à Antara Londres lundi, pendant le festival indonésien, on organisait des démonstrations culinaires, un excellent café indonésien et des performances artistiques de Java West et de Bali, ainsi que le jazz fusion d'Indonésie. L'ambassadeur indonésien à Bruxelles, Yuri Tambrin, a déclaré qu'avec la fête indonésienne, le peuple belge connaissait et visitait de plus en plus l'Indonésie. Il espère que la coopération avec le parc de Pairi Daiza pourra se développer dans les années à venir et que cet événement peut présenter des arts culturels et culinaires d'autres régions. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. Le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, le tremblement de terre à Lombok est un avertissement pour améliorer la vigilance et la solidarité. Chers auditeurs, une semaine plus tard, l'île de Lombok et ses environs dans la province de Nusa Tenggara Ouest ont été frappés par de grands tremblements de terre. Le plus grand séisme de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter s'est produit dimanche le 5 août. La région touchée par le pire tremblement de terre est le nord de Lombok. Jusqu'à présent, plus de 90 personnes ont été tuées et plus de 200 autres blessées. La plupart des victimes ont été tuées par des bâtiments effondrés. Des milliers de personnes ont fui vers des endroits plus sûrs. On estime que le nombre de victimes et les dégâts continueront d'augmenter, compte tenu que les agences de l'équipe interarmée ne peuvent pas atteindre toutes les zones touchées par le séisme. Il existe également des allégations selon lesquelles des victimes enterrées dans ces bâtiments effondrés qui ne peuvent être évacuées par des agents. L'équipe interarmée de recherche et de sauvetage a continué à évacuer les victimes dans les zones touchées par le séisme pour secourir et aider les victimes. La collecte des données continue à être effectuée par les autorités. Lombok, connu pour son charme naturel et culturel, est maintenant en partie détruit. Le séisme a également été ressenti par d'autres îles touristiques, à savoir Bali. L'aéroport international I Gusti Ngurah Rai à Denpasar n'a pas échappé aux dommages, même s'il n'a pas été trop grave. En outre, des centaines de touristes étrangers qui ont fait la queue pour sortir de Lombok sont devenus une voûte tout au long de la journée après le grand tremblement de terre. La panique des habitants était évidente à cause de nombreuses personnes qui couraient partout sans savoir où elles allaient se sauver. Cette situation est toujours associée à des pannes de courant et à des alertes précoces concernant le potentiel de tsunami, même s'il est relativement faible. Les embouteillages se produisent partout. Selon le rapport de l'Agence nationale de la gestion des catastrophes, BNPB, l'évacuation des touristes est leur propre initiative car elle a été secouée par le tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter, qui a été suivi d'une alerte précoce au tsunami. Ils sont inquiets car beaucoup d'informations trompeuses circulent ou des canulars qu'il y aura un tremblement de terre d'une force de 7,5 sur l'échelle de Richter suivi du tsunami de nuit. Le canular circule dans la région de Lombok, ce qui fait peur aux habitants et aux touristes. Cette information est incorrecte et trompeuse. C'est là le besoin pour toutes les parties d'accroître la sensibilisation et la connaissance. Le gouvernement doit éduquer ses citoyens dans tout le pays pour qu'ils se préparent et ne pas paniquer en cas de catastrophe, en particulier en tremblement de terre. Ceci est important. Comme tenu, l'Indonésie est dans une zone sujette au tremblement de terre. La prudence et l'autopréparation sont nécessaires pour que les citoyens ne croient pas seulement à des informations trompeuses. Les Indonésiens doivent savoir que scientifiquement, les tremblements de terre ne peuvent pas être prédits avec certitude, quelque part l'ampleur où et quand cela se produira. Pour le tremblement de terre de Lombok, le BMKG a déclaré que des répliques sismique se produirait sûrement, mais avec une intensité plus faible que 7 sur l'échelle de Richter. Jusqu'à lundi soir, il y avait 176 répliques sismiques à faible intensité. Nous sommes reconnaissants au gouvernement de réagir rapidement aux infrastructures vitales. Quelques instants après le séisme, l'aéroport international Igusti Ngurah Rai à Bali et l'aéroport international à Lombok ont pu fonctionner comme d'habitude. L'électricité qui est des pannes de courant peut être restaurée. De même, les ports de Bali et de Lombok fonctionnent normalement. Tout cela facilite l'équipe de recherche et de sauvetage et les autres unités concernées à effectuer l'évacuation et le sauvetage. Pour d'autres citoyens à toute l'Indonésie, c'est bon le moment pour montrer leur solidarité à leurs compatriotes indonésiens en aidant ceux frappés cette catastrophe. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Le 7 août 1945, le Conseil de préparation de l'indépendance d'Indonésie, ou BPUPKI, s'est transformé en Communauté préparatoire pour l'indépendance indonésienne, ou PPKI. BPUPKI est un organisme créé par le gouvernement d'occupation japonais le 20 avril 1945, coïncidé avec l'anniversaire de l'empereur Hirohito. Cet organisme a été créé pour avoir le soutien du gouvernement indonésien en promettant que le Japon aidera le processus de l'indépendance indonésienne. BPUPKI se compose de 63 personnes dirigées par Rajiman Widyodiningrat et le vice-président Hibangase Yoshio et R.P. Suroso. Le 7 août 1945, le Japon a dissous BPUPKI et formé le comité préparatoire de l'indépendance indonésienne avec les membres 21 personnes. L'objectif principal de la formation de PPKI était d'accélérer la proclamation de l'indépendance, de formuler l'ordre de l'État et la structure de l'État. En Le 7 août 1975, le barrage Anshin s'effondre. L'effondrement du barrage dans la province chinoise du Henan a tué des dizaines de milliers de personnes. Les nouvelles de cet événement par le gouvernement chinois ont été fermées pendant des années. Des typhons de la mer de Chine méridionale ont provoqué une forte tempête de pluie 3 jours dans la province de Henan, au sud du pays. 62 barrages se sont effondrés en nuit, y compris 2 grands barrages. L'un d'entre eux est le barrage de Bangqiao. Cette catastrophe a fait 85 600 personnes sont mortes selon les chiffres officiels du gouvernement, mais d'autres sources ont indiqué que le bilan était de 230 000 sont mortes. Le 7 août 1994, la création de l'Alliance des journalistes indépendants, ou AJI. L'Alliance des journalistes indépendants est née comme la lutte de la communauté de la presse indonésienne contre l'arbitraire du régime de nouvel ordre. Initialement, et interdiction de Detik, Éditeur et Tempo, le 21 juin 1994, les trois ont été gelés parce que des nouvelles étaient classées comme critiques aux dirigeants. Cette action répressive a provoqué l'action de solidarité. Enfin, environ 100 personnes composées des journalistes et des jeunes chroniqueurs indonésiens ont réuni à Sirnagali, Bogor, Jawa West, le 7 août 1994. Ce jour-là, ils ont signé la déclaration de Sirnagali. Cette déclaration exige le respect du droit du public à l'information, opposant la retenue de la presse, à rejeter le forum unique pour les journalistes et à annoncer la création de AJI. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée « La valeur de Pancasila devrait être appliquée dans la vie quotidienne ». Un bon exemple est l'action la plus importante pour appliquer Pancasila dans la vie quotidienne. Cela a été déclaré par le chef du bureau du président au KSP, M. Muldoko, cité par Gatra.com 31 juillet. Selon lui, l'exemple de la famille qui appliquait la valeur de Pancasila sera plus efficace pour la jeune génération aujourd'hui, plutôt que d'utiliser une approche endoctrinement. Il appliquait que les jeunes préfèrent les moyens communicatifs, participatifs et interactifs. Le membre du groupe de travail spécial de l'Agence de développement de l'idéologie de Pancasila ou BPIP, M. Beni Susatyo, a déclaré à Jakarta que BPIP voulait pratiquer Pancasila dans la vie quotidienne et d'être une habitude dans la société. Selon lui, un exemple d'appliquer Pancasila le plus pertinent dans la vie des gens de l'Indonésie est d'accepter les différences et se respecter mutuellement. Selon Beni, le terme de gouvernement, on a déjà réalisé l'un des Pancasila au principe, à savoir la justice sociale pour tous les Indonésiens. En outre, l'Agence de développement de l'idéologie de Pancasila au BPIP explorer l'intégration des valeurs de Pancasila dans le matériel éducatif sous la forme d'un livre spécial ou intégré dans des sujets existants. Concernant la question, l'observateur de l'éducation, Dharma Ningtyas, a dit que Pancasila devrait être introduit de manière intensive. Si les valeurs de Pancasila ne sont pas introduites de manière intensive, automatiquement la mentalité des étudiants sera affectée, y compris dans la façon d'appliquer la tolérance religieuse entre les tribus et les pensées sur la justice sociale. Il espère que le gouvernement pourra surveiller et rappeler plus intensément les façons de Pancasila dans l'établissement de l'enseignement formel. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel introduisant Ngalau Indah à Payakumbu, Sumatra Ouest. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Payakumbu est l'une des villes en province de Sumatra Ouest. La ville est entourée de hauteur et de montagnes, de sorte que l'air de la ville est frais. Il y a au moins trois grandes montagnes dont les sommets peuvent être vus de cette ville, à savoir le mont Sago, le mont Marapi et le mont Singgalang. La beauté du panorama de la ville depuis les collines de la ville Payakumbu devient une attraction touristique. L'un d'entre eux est le sommet Ngalau Indah. Cet objet touristique naturel combine la beauté du panorama de la ville à l'atmosphère d'une grotte naturelle. Ngalau Indah est situé à environ 4 km du centre de ville Payakumbu ou à 31 km de Bukit Tinggi. Pour entrer dans la porte Ngalau Indah, vous devez payer un billet d'entrée de 7000 rupiah par personne. Une fois à l'intérieur de la porte, vous serez accueilli avec une vue sur la tendue verte des plantes et des grands arbres. À environ 300 mètres de la porte, il y a des belles grottes que vous pouvez visiter. Dans cette grande caverne, nous pouvons voir la beauté des stalactites et des stalagmites qui sont encore bien conservées. Cette grotte est habitée par des essaims de chauves-souris et des hirondelles qui nichent entre les fissures du plafond qui culminent à environ 10 mètres de haut. Pour explorer la grotte, vous n'avez pas à craindre de vous perdre car il y a des chemins et des lumières à l'intérieur de la grotte pour éclairer votre chemin. Même sur certains murs de la grotte, des lumières colorées ont été installés pour embellir la grotte. À l'intérieur de la grotte, à une altitude de 640 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouvent également des roches aux formes uniques et très distinctes. L'un d'entre eux est Batugong. Batugong est une pierre creuse ayant la forme d'une cône creuse ou ressemblant à une cloche. L'emplacement est juste sur le côté gauche de l'entrée de la grotte. La forme est unique, ce qui fait cette roche produire un son assez fort. Il y a aussi deux pierres qui se trouvent côte à côte, verticalement, avec des formes ressemblant à des éléphants et des champignons. De plus, certaines ont la forme de moustiquaires, de parapluies et d'êtres humains. L'activité de randonnée le long de la grotte est jusqu'à 80 mètres. En plus d'explorer la grotte, pour ceux d'entre vous qui visitent Ngalau Indah, vous pouvez également profiter de la vue panoramique sur la ville de Payakumbu dans son ensemble. Vous pouvez marcher le long du chemin vers le sommet de la grotte. Il y a un pic Simarajo à une altitude d'environ 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Du sommet de cette hauteur, vous pouvez voir à quel point les vues de la ville Payakumbu sont belles. Cette attraction touristique est également équipée de restaurants et de piscines. Pour ceux d'entre vous qui veulent nager, il y a une piscine avec un ticket d'entrée de 10 000 rupiah par personne. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'Indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Berapa harganya? Je répète, Berapa harganya? En français, combien ça coûte? Mettons, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Berapa harganya » ou en français « Combien ça coûte ?» Tony et Enda sont en train d'acheter un châle en batik dans l'un des magasins de batik.
« Selendang ini berapa harganya ?»«
Oh, yang ini 90 saja.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini ?»
90.000.
Oh.
Après avoir écouté des conversations, mettons, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui. Berapa harganya? Ou en français, combien ça coûte? Selendang ini berapa harganya? Selendang ini berapa harganya? En français, combien ça coûte cette écharpe? 90. En français, 90. Maaf, saya kurang mengerti. En français, désolé, je ne comprends pas. Berapa harga selendang? Berapa harga selendang? En français, quel est le prix d'un châle? 90.000 rupiah. 90.000 rupiah. En français, 90.000 rupiah. Pour demander le prix d'une sauce, le mot question utilisé est berapa? Ou en français, combien? Il y a celui qui est suivi du mot harga, ou en français, le prix. Il y a celui qui non. Par exemple, berapa harga selendang ini? Berapa harga selendang ini? En français, quel est le prix du châle? Selendang ini berapa? Selendang ini berapa? En français, ce châle, combien ça coûte? Selendang ini, harganya berapa? Selendang ini, harganya berapa? En français, ce châle, combien ça coûte? La phrase, berapa harga selendang ini? Ou en français, quel est le prix du châle? Est très formelle. Dans les conversations quotidiennes, cette phrase est rarement utilisée. La phrase habituellement utilisée est berapa ini? Berapa ini? Ou en français, c'est combien? Yang ini berapa? Yang ini berapa? En français, cela est combien? Baju ini berapa harganya? Baju ini berapa harganya? En français, combien ça coûte cette vêtement? Ensuite, dans le dialogue, vous entendez comment la vendeuse mentionne ce prix. 90. Ou en français, 90. Dans la transaction de vendre et acheter, cela se produit habituellement. Le mot ribu, ou en français, 1000, pour de l'argent d'un montant de puluhan ribu, ou en français, dizaines mille et ratusan ribu, ou en français, centaines mille, n'est pas mentionné. C'est la même chose avec le mot juta, en français, million. Mais encore une fois, cela sera rarement produit. Si vous découvrez cela, vous devez confirmer au vendeur sur le prix. Maintenant, je vais donner d'autres exemples de l'utilisation. Sepatu ini berapa harganya? Sepatu ini berapa harganya? En français, combien coûte la chaussure? 200. 200. En français, 200. 200 rupiah. 200 rupiah. En français, 200 rupiah. 200 ribu rupiah. 200 ribu rupiah. En français, 200 000 rupiah. Des autres exemples. Berapa harga rumah ini? Berapa harga rumah ini? En français, quel est le prix de cette maison? 600. 600. En français, 600. 600 000. 600 000. Ou en français, 600 000. Bukan, 600 juta rupiah. 600 juta rupiah. En français, non, 600 millions rupiah. Chers amis, avant de terminer la rubrique Apprendre l'Indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Selendang ini berapa harganya?
Oh, yang ini 90 saja.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
90 ribu.
Oh.
Après avoir écouté la conversation et en pour titre, berapa harganya? Berapa harganya? Uang français, combien ça coûte? Nous vous donnerons une pratique qui est bien sûr liée au mot existant. Cet exercice consiste à décrire votre travail en mentionnant votre nom, profession, lieu de travail, votre temps de travail, à savoir jour, heure de travail et pause. Par exemple, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour aujourd'hui. En pratique, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien. Il y aura un cadeau pour les gagnants. Le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Bon, chers amis, merci à tous et à demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie, le service mondial de RRI, où que vous soyez. Bienvenue dans le magazine musical, un programme musical qui présente la musique indonésienne, traditionnelle ou moderne. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons des chansons malaises. Bon serviteur, étant la première chanson intitulée « Tak pernah kusangka » chantée par Edi Silitonga. La chanson a le thème « Le chagrin du cœur ». Bonne écoute. Serjito, vous venez d'écouter la chanson malaise intitulée « Tak pernah kusangka ». Les paroles de la chanson parlent de quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que sa vie soit remplie de chagrin. Il déplore son destin malheureux et sa vie désolée. Il manque le bonheur pour sa vie. La chanson a une musique triste et déchirante, tout comme les paroles. Créée par Rinto Harahap, la chanson est dans l'album pop malais du premier volume. Une autre chanson malaise d'Edi Silitonga vous sera présentée intitulée Aziza. Cette chanson malaise raconte l'histoire d'une fille nommée Aziza. Sur les paroles, Aziza est décrite comme une personne belle, gâtée avec une peau éclatante et un doux sourire. Pas étonnant que les gens soient obsédés par Aziza. Cette chanson est aussi dans l'album pop malais du premier volume. Bonne écoute.
Rupamu nan jelita, gaya kamu nan manja, membuat hatiku kini tergoda. jadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu. Cinta dipadu, oh Aziza, kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu dipadu, oh Aziza.
Segerita kemudian dikutulah sangsong dari Silitonga ang titule Aziza. Ni apa matang siantar onok de Sumatra edi ekonung puk savoa ege ila kre de di jendal bum de di fang jangdre. Bong segerita awang de terminate program wasila dene sangsong ang titule La Fleur de Tanjung. Bonekut e ademeng.
Harumnya
saya yang miskin, saya yang miskin.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.